Voix Afrique, les infos à Washington.
Eric Manirakiza, il est 13h à Washington, 17h à Ouagadougou. D'abord, l'actualité en Afrique, au Burkina Faso. L'aéroport d'Ouagadougou est fermé jusqu'à nouvel ordre suite à l'impasse sur le désarmement du régiment de sécurité présidentielle. Et les populations de Ouagadougou 2000 sont invitées à ne pas sortir. Des soldats ont quadrillé la zone autour de la caserne Nabakoum 2 du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, plaçant véhicules blindés, pick-up avec des mitrailleuses. Zoumana Wanogo.
Aujourd'hui, mardi, se présente pour les habitants de la capitale burkinabé comme la journée de tous les dangers. Tôt le matin déjà, les habitants proches du palais présidentiel où se trouve le camp de l'ex-RSP ont constaté un déploiement des forces loyales dans les grandes artères à pratiquement un jet de pierre du camp de l'ancien RSP. Comme pour ajouter de l'angoisse à l'inquiétude, l'état-major a fait un communiqué invitant les habitants du quartier Ouaga 2000 et jouxtant à rester chez eux. Ce que tout le monde redoutait, à savoir l'offensive contre les éléments du RSP prenait ainsi forme. Et quand la radio nationale n'a pas pu faire son journal parler de 13 heures, la peur s'est généralisée. Mais selon les responsables de la radio nationale, il a été demandé aux journalistes de rentrer chez eux, car la radio est contiguë à un camp annexe du RSP. C'est dans ces entrefaits que l'arrestation de Djibril Bassolé a été confirmée, de même que la fermeture de l'aéroport de Ouagadougou. On signale aussi que des éléments de l'ex-RSP, dont des officiers, se sont rendus aux forces loyales. Zoumana Wanogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et en Centrafrique, Bangui est toujours paralysé. La présidente de transition, Catherine Samba Panza, a lancé un appel au calme après les violences meurtrières qui ont fait près de 40 morts depuis samedi. Freeman Sipila, notre correspondant sur place.
Contrairement à ces dernières 72 heures, la capitale centrafricaine a été calme aujourd'hui, malgré la persistance des barricades. Aucun affrontement n'a été rapporté dans les zones affectées ces derniers jours par les violences. De nombreuses scènes de pillage des locaux des organisations humanitaires ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dans les 1er et 5e arrondissements. Les nombreux appels au calme, dont celui de la présidente de la transition depuis New York, semblent tomber dans l'oreille du sourd, car sur le terrain, la réalité des faits démontre le contraire. Jusqu'en début d'après-midi, la MINUSCA a renforcé son dispositif dans la ville. Des casques bleus ont été déployés au sol afin de démanteler les barricades pour faciliter le retour au pays de la présidente Catherine Samba Panza. Mission très compliquée dans les quartiers nord où des accrochages ont été régulièrement enregistrés entre forces onusiennes et hommes armés. Dans une déclaration ce matin, le porte-parole du gouvernement a indiqué que certains officiers de l'armée nationale bien connus ont voulu profiter de la situation pour déstabiliser la transition. Le grand jour à craindre est ce mercredi 30 septembre, jour de rassemblement populaire de la société civile pour exiger le redéploiement des forces armées centrafricaines et l'application du mandat de la MINUSCA. Ces violences déclenchées le samedi 26 septembre ont déjà fait plus de 60 morts et plus d'une centaine de blessés. Freeman Sipila Bangui, VOA Afrique.
Et au Congo, la République démocratique du Congo justement a fermé sa frontière avec la Centrafrique jusqu'à nouvel ordre à la suite du regain de violence à Bangui. Et conséquences humanitaires graves dans le bassin du lac Tchad provoquées par de violences de Boko Haram. L'ONU compte déjà 2,5 millions de personnes déplacées et dans cette zone difficilement accessible, frappée par la sécheresse et les inondations de manière récurrente. La crise risque de s'aggraver davantage si la communauté internationale n'intervient pas, dit le professeur Manassé Abouya, professeur de sciences politiques à l'université de Douala au Cameroun, joint à Yaoundé. Et au Congo, Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso semble avoir lancé une véritable campagne électorale alors que la constitution de son pays lui interdit de briguer un nouveau mandat en 2016. L'Union européenne devrait adopter demain jeudi des sanctions contre 4 proches du président burundais Pierre Nkurunziza et consiste en une interdiction de visa et le gel de leurs avoirs dans l'Union européenne. Et c'est demain que l'islamiste malien Ahmad Al-Faki Al-Mahdi doit comparaître devant la Cour pénale internationale à La Haye. Il est soupçonné d'avoir organisé en 2012 la destruction de 9 mausolées de la mosquée Sidi Yahya à Tombouctou, toujours à la CPI. Le procès pour subornation de témoins de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba et quatre de ses proches s'est ouvert ce mardi. Il est accusé d'avoir coordonné un plan pour corrompre 14 témoins.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le nombre de meurtres en Afrique du Sud a augmenté de près de 49 personnes tuées chaque jour entre 2014 et 2015, selon les statistiques officielles révélées mardi par la patronne de la police nationale. Entre les deux années 2014 et 2015, 17 805 meurtres ont été commis dans le pays, soit une hausse de 782 crimes par rapport à l'an passé. Ailleurs dans le monde, crise des migrants en Europe. Le cap d'un demi-million de personnes ayant traversé la Méditerranée vient d'être franchi, selon les chiffres publiés aujourd'hui par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés HCR. Les détails avec Lucille Hamon.
Ce sont près de 383 000 migrants qui ont rejoint la Grèce et environ 129 000 l'Italie. Le HCR ajoute que ces personnes, souvent épuisées et traumatisées par un voyage où beaucoup succombent, ont besoin d'une protection internationale. Selon les Nations Unies, la Méditerranée continue d'être la voie la plus meurtrière pour les réfugiés. Depuis le début de l'année déjà, environ 3000 personnes sont mortes ou portées disparues en tentant de rejoindre l'Europe par la mer, contre 3500 personnes en 2014. Dernier exemple de ce voyage périlleux en Libye, où les gardes-côtes ont annoncé avoir secouru cette nuit 346 migrants, en majorité des hommes, à bord de trois canots pneumatiques. C'est ce qu'affirme Mohamed Janan, un officier des gardes-côtes libyens. Les migrants ont été acheminés vers la base navale de Tripoli avant d'être placés dans des centres de rétention. Les pays européens se sont mis d'accord la semaine dernière pour se répartir 120 migrants et aider financièrement les pays voisins de la Syrie. Mais l'ONU a appelé les dirigeants à faire davantage, alors que l'Europe traverse sa plus grande crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale.
Et en Afghanistan, les forces gouvernementales, soutenues par l'aviation américaine, ont tenté aujourd'hui de reprendre aux talibans le contrôle de Kunduz, la cinquième plus grande ville du pays, au lendemain de sa prise surprise par les rebelles. Les talibans, eux, veulent appliquer la loi islamique. Claire Morin-Gibourg.
La prise de Kunduz est la victoire la plus importante des talibans en près de 14 ans de rébellion. La facilité avec laquelle les rebelles se sont emparés de la ville jette une lumière crue sur les limites des forces gouvernementales qui les combattent seules sur le terrain depuis le retrait à la fin 2014 des troupes de combat de l'OTAN. Les talibans paradent dans Kunduz à bord de 4x4 volés, scandant « Allahu Akbar » et appelant les habitants de la ville à la soumission et à la délation.
Je demande à chacun d'entre vous d'aider les moudjahidines à dénoncer les traîtres et les hypocrites et ceux qui se comportent mal envers le peuple.
Même temporaire, la prise de Kunduz assure aux talibans un retentissement international qui pourrait permettre à leur nouveau chef d'asseoir sa légitimité. Une victoire que les rebelles talibans ont immédiatement partagée en publiant une vidéo de 10 minutes sur les réseaux sociaux, vidéo où les insurgés indiquent qu'ils veulent appliquer une interprétation stricte de la charia. Entre 1996 et 2001, lorsque les talibans ont dirigé l'Afghanistan, l'éducation et le travail des femmes étaient interdits, ainsi que la musique et les loisirs.
Et le président américain Barack Obama a de nouveau réclamé mardi le départ du président syrien Bachar al-Assad pour vaincre les djihadistes de l'État islamique, tout en affirmant qu'il finirait par être vaincu devant les membres de sa coalition antiterroriste. La Russie, qui insiste au contraire pour maintenir Assad au pouvoir afin de combattre l'État islamique, a snobé ce sommet antiterroriste en y envoyant qu'un diplomate. M. Obama avait convoqué cette réunion à marge de l'Assemblée générale de l'ONU pour remobiliser ses troupes un an après le lancement de la coalition militaire contre les djihadistes à laquelle participent une soixantaine de pays. En attendant, la Russie a établi une tête de pont dans l'ouest de la Syrie, bastion du régime, et n'a pas exclu des frappes contre l'État islamique. Fin de ce journal, le prochain dans 20 minutes dans Le Monde aujourd'hui avec Claire Morin-Gibourg et Chérubin Dorcide. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et restez
au cœur de l'info sur VOA Afrique.